Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC, entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, 16 semaines après la tristesse de l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, revoilà le tournoi, cette vénérable institution qui, on l'espère, permettra aux Bleus et à l'ensemble du rugby français de panser ses plaies. Une équipe de France qui, depuis le mois d'octobre, a connu quelques changements avec l'arrivée de nouveaux membres dans le staff, mais aussi de nouveaux joueurs. La mayonnaise a-t-elle pris ? On écoutera William Servat, vieux grognard de la bande à Galtier. On se demandera également dans quelle forme se trouvent nos Bleus dans cette saison interminable. La plupart d'entre eux n'ont pas pu se reposer depuis la fin du Mondial. Exception faite du capitaine Greg Aldrit qui, lui, a eu droit à des grandes vacances. Et si c'était ça la solution ? Nicolas Jean-Jean, le nouveau directeur de la performance des Bleus, nous expliquera tout ça. Et puis on se penchera aujourd'hui aussi avec les poteaux sur la compo probable qui sera annoncée mercredi et sur notre adversaire du jour, l'Irlande, qu'on aurait dû affronter en finale de Coupe du Monde. Oui, mais ça, c'était de la théorie. Les poteaux du jour, les voici, les voilà. Denis Charvet, évidemment, qui a hâte que ça commence. Il a envie d'en découdre, il a envie de nous donner ses
Nous y serons.
Ben oui, exactement.
Nous serons à Marseille,
tous ensemble. Winnie Claret, de retour d'une tournée triomphale à Dublin.
Bravo.
Et de retour.
Un grand moment. Ouais, salut tout le monde.
Mais là, tu vas affronter les agriculteurs, c'est ça, maintenant, pour aller...
On va essayer d'aller à Marcoussis, en Essonne.
Voilà, c'est pas évident. La capitale, pour l'instant, est en train d'être cernée.
On va faire avec les conditions du jour, hein. Qu'est-ce que tu veux ?
Eh ouais, non, mais remarque, c'est vrai que les agriculteurs ont peut-être envie d'aller voir l'équipe de France. Aussi,
mais je vais peut-être les emmener, ouais.
Tracteurs.
Je leur propose qu'on va détourner le convoi et on va aller tous à Marcoussis.
Ah, ce serait une bonne idée. Et puis, chef Templier, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, est également avec nous. Bonjour, chef, comment ça va ?
Allô, chef.
Il répond même plus.
Ah bah alors,
oui,
le chef,
même plus. Voilà, il préfère.
On en a plus besoin. Allez, on enchaîne.
Allez, on le squeeze.
Oui, on l'enlève du fil conducteur.
Voilà,
ouais. Et alors, on reprend le fil conducteur.
Je barre tous les trucs que j'avais prévus pour Wilfried. Et on va le retrouver dans quelques instants. Messieurs, dames, rien de tel qu'un beau tournoi pour effacer les douleurs, les peines et repartir du bon pied.
Il va laisser. Quel essai de Ringro sur ce raffut. Voilà, c'est terminé. Ça faisait 574 jours que l'équipe de France n'avait pas perdu depuis le 21 juillet 2021. L'Irlande s'impose 32 à 19.
Pour moi, il est tellement incroyable, il est tellement difficile. Il est très important de rentrer au Stade de France en se disant qu'on peut gagner le tournoi encore, malgré notre défaite en Irlande.
Allez, oui, essai, c'est tout. Ouais, oui, c'est oui. La France qui bat l'Écosse 32 à 21, qui retrouve le goût du succès après sa défaite en Irlande. Essai de Penaud, 41 à 28 en faveur de l'équipe de France qui gagne son cinquième match.
La démonstration, un nouvel essai irlandais. Il y aura le bonus offensif en plus pour le 15 du trèfle. 29 pour l'Irlande, 16 pour l'Angleterre. Le grand chelem pour l'Irlande, le quatrième seulement de l'histoire.
Voilà, le grand chelem de l'Irlande, on va y passer, on va passer dessus. On va s'intéresser évidemment à nos Bleus qui restent sur une série de 9 victoires pour une seule défaite durant les deux derniers tournois et qui ambitionnent évidemment d'aller chercher un nouveau grand chelem cette année. On rappelle que nous sommes en année paire et que nous allons donc recevoir à 3 reprises, dont l'Irlande et l'Angleterre. On sait que ce sont les années de grand chelem normalement pour l'équipe de France. Dire que l'on vise le grand chelem, c'est pas très bien vu, Winnie, mais c'est clairement l'objectif des Bleus.
Alors, ils nous le disent pas, ça c'est sûr, puisqu'on a notamment demandé à Paul Boudéan et Mathis Lebel, qui étaient en conférence de presse à Marcoussis samedi avec nous. Eux, ils nous assurent qu'on prend évidemment les matchs après les autres, ça on connaît, hein, la rengaine. Ils veulent rendre absolument une belle copie devant leur public à Marseille au Vélodrome. Et puis les calculs, ils veulent les faire plus tard, assez vite évidemment, parce que ça va quand même vite le tournoi, mine de rien. Le 16 mars, c'est terminé. Il y a 5 matchs au total pour les Bleus. Mais il faut rappeler quand même quelque chose, c'est qu'ils ont forcément, en tout cas au moins Fabien Galtier en tête une chose, il y a eu des grands réveils post-Coupe du Monde. On en connaît un, c'était celui du tournoi 2004, après la demi-finale perdue contre les Anglais en 2003. Les hommes de Laporte, les coéquipiers de Fabien Pelouse, qui sont allés soulever ce grand chelem, le 8e à l'époque de l'histoire des Bleus, après cette défaite en Coupe du Monde. On imagine que la seule manière d'enterrer définitivement les critiques pour Galtier et pour les Bleus, ce sera un grand chelem. Mais ils n'osent pas en parler, ça je te confirme.
Ah ben non, mais ça évidemment, ils t'en parleront que lors du dernier match face à l'Angleterre.
Si on gagne l'Irlande, surtout.
Si on balie, ouais, si on balie. Bah, oui. Tiens, on l'a retrouvé.
Ah. Bonjour.
Comment ça va,
chef Templier, comment il va?
Bonjour, la France du rugby. Alors, je vous écoutais là, on l'écoutera peut-être tout à l'heure, et dans les jours qui viennent sur rmcsport.fr et à l'antenne, bien sûr. Peato Movaca, moi, que j'ai rencontré il y a 15 jours, m'a dit si, grand chelem. Objectif
grand
chelem.
Ah ouais, il te le dit, toi.
Ouais.
Une fois que t'avais éteint ton micro, quand même.
Non, il le dit, une fois qu'on a goûté à cette coupe, qu'on a gagné ça, on a envie de le refaire, donc.
C'est logique quand tu reçois trois fois et que tu vas au Pays de Galles, qui normalement est plus qu'accessible pour l'équipe de France, et après ce déplacement en Écosse.
Ouais, c'est
compliqué. Mais c'est moins dur que d'aller jouer en Irlande que d'aller jouer à Twickenham.
Bon, on a quand même perdu à Murrayfield cet été en match de préparation.
C'est ce que je dis.
Avec une équipe largement
au déplacement périlleux, mais je veux dire, si tu gagnes à la maison, t'es pas loin du grand chelem.
C'est moins dur d'aller au Pays de Galles que de recevoir l'Irlande aussi. Parce que ce premier match, on va en parler.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Alors, le problème, justement, c'est que les Bleus attaquent directement ce tournoi à Wilfried par la face ouest. C'est la plus difficile du tournoi. Face à un adversaire.
La face nord.
Normalement, c'est la face nord. Mais
c'est l'Écosse, la face nord. Mais là, c'est la face ouest la plus difficile dans le tournoi. En tout cas, en ce moment. Face à un adversaire qui, lui aussi, Wilfried, visait la couronne mondiale. Hein, parce qu'on parle beaucoup de la déception de l'équipe de France, parce qu'on recevait cette Coupe du Monde. Mais l'Irlande sortait d'un grand chelem, était numéro 1 mondial au classement World Rugby. Et elle est tombée, là aussi, sur un os. Donc, il n'y a pas que nous qui avons toutes les larmes du monde.
Mais l'Irlande était injouable aussi, à un moment, franchement.
Ils ont battu l'Afrique du Sud.
Rappelez-vous des matchs, ils ont battu l'Afrique du Sud. Il y a l'Écosse qui a l'espoir de se qualifier sur le dernier match de poule contre eux. Balayé. Et puis quand ils jouaient, quand ils avançaient, quand leur symphonie était en route, moi franchement je me disais, mais comment on va pouvoir battre, qui va pouvoir battre, et comment
même
battre
ces Irlandais? Même contre les Blacks, s'ils rejouent 10 fois le match, ils vont gagner 9 fois.
Ah, il y a des moments, c'est vrai.
Comme les Bleus contre l'Afrique du Sud, c'est la même chose. Mais c'est
Jordi Barrett qui sauve un ballon d'essai à un quart d'heure de la fin dans l'embut, il passe dessous et s'il y a essai là, il y a peut-être plus de match.
Après, ils sortent pas Sexton. Bon, il y a des erreurs de coaching aussi, mais bon, c'est vrai que cette équipe d'Irlande était impressionnante, tu as raison de le souligner.
Mathis Lebel le soulignait bien lui aussi, il disait ils ont cette capacité à enchaîner les tâches, à être chirurgicaux
clinique,
à tous les moments, clinique. On l'a vu pendant cette Coupe du Monde, malgré la défaite, c'était certainement le plus beau match de la Coupe du Monde quand même, ce quart de finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande.
Un des plus beaux matchs depuis des années peut-être.
Complètement, enfin voilà. Et pour ça, oui, se méfier de l'Irlande, je pense que c'est plus que raisonnable.
Mais il y a un fait quand même contre la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est-à-dire que c'était pour la première fois de leur histoire en Coupe du Monde, ils étaient favoris. Alors qu'avant, ils n'étaient jamais favoris, les Irlandais. Là, ils étaient vraiment favoris.
Ils ont ce plafond de verre historique du quart de finale en plus.
Oui, mais en même temps, c'est le premier quart de finale qu'ils arrivent à bien jouer, à bien négocier, même s'il y a des fêtes. Mais bon, c'est quand même une des meilleures équipes de tous les temps irlandaise, pour moi.
Après, Andy Farrell a bien dit, le sélectionneur anglais de l'Irlande, a dit lui-même qu'il avait tourné la page, qu'il avait dégéré cette élimination en quart de finale. Comme l'a dit Fabien Galthié, donc reste à voir.
J'ai compris que vous voulez parler de l'Irlande. On parlera des Bleus après, du coup. Alors, parlons quand même de cette équipe d'Irlande qui a changé pas mal de champs.
Il y a surtout
perdu son maître à jouer.
Il y a plus Sexton.
Jonathan Sexton, donc qui a décidé de
prendre sa retraite.
Parce que nous, non plus, notre maître à jouer ne sera pas là. Mais lui, il reviendra a priori l'année prochaine. Alors que Sexton, c'est fini. Hop là, à la trapinette.
Ouais. Les doublures potentielles de Sexton.
Oui, ils
sont pas aussi capés qu'un Maxime Lucu du côté de la mêlée française.
Ouais. Donc cette équipe d'Irlande, Denis, sans Sexton, c'est du même niveau.
Pour moi, oui, c'est le même niveau c'est le même niveau parce que Sexton, il se fatiguait vers la fin. Le quart de finale, pour moi, est très significatif où on le voit qu'il est cuit dans les 20 dernières minutes. Alors ils font le choix de pas le sortir. Moi, je l'aurais sorti, mais bon, après c'est facile après de refaire l'histoire. Mais cette équipe d'Irlande, elle est impressionnante parce que justement, tout le monde sait la partition qu'il doit faire. Et quand tu en changes un joueur, tu en mets un autre, c'est la même chose. Mais surtout, moi je pense que c'est surtout devant. Ils ont une première ligne, absolument la meilleure du monde, pour moi.
Avant le début de la précédente Coupe du Monde, on disait... L'Irlande, c'est l'année ou jamais, parce que derrière, leur équipe est en train de vieillir et elle ne sera plus du même niveau. Mais elle n'est pas encore trop vieille là, elle a encore un peu de force devant elle pour remporter encore le tournoi là, non?
Moi, ce qui m'impressionne de l'équipe d'Irlande, c'est devant. Ils ont une mêlée, une conquête, une mêlée.
Troisième ligne incroyable.
Et porter le meilleur pilier gauche au monde. Je pense que c'est là où on risque de souffrir contre eux. J'espère qu'on est bien préparé parce qu'encore une fois,
parce que c'est le premier match. Hein, en
on plus. A quelques absents en
ouais.
plus.
Ouais,
nous,
ouais, donc, notamment dans ce pack justement, ouais. et que ce soit en troisième ligne, tu le dis. Ouais. Et la, alors je pense que le Wilfried, ouais, voilà, c'est ça, j'allais dire. Berne, dans la cage, James je pense Ryan, que c'est là que ça pose le plus de problèmes pour nous. C'est que pour l'instant, on se dirige quand même vers une association, mais on y reviendra. Hein, mais entre Paul Gabriel et Paul Willemc, c'est moins solide que ce que promet l'Irlande pour ce match à Marseille.
Je vous sens un peu tendu quand même là. Je vous sens pas complètement.
Mais non, mais oui, oui, oui.
Non, mais pour moi, on joue aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Donc je veux dire, on affronte les meilleurs. Pour moi, c'est meilleur que les autres équipes, même l'Afrique du Sud. Je crois que l'Irlande a une équipe qui est redoutable parce que elle est arrivée à maturité. Et, mais alors vous allez me dire, ils ont perdu en quart de finale. Oui, mais c'est pas significatif. Moi, je reste sur les performances qu'ils ont réalisées, notamment celles qu'ils avaient réalisées contre la France à Dublin l'année dernière. Où on avait été vraiment balayé, même si le score a pris de l'ampleur en fin de match, on a quand même été balayé dans le jeu, dans les ballons hauts, dans tous les secteurs, on a été en dessous de tout.
Bah, de mémoire, on prend c'est 4 essais 1. Hein,
non, oui, il rentre 7 fois dans l'embut, hein, ou 6 ou 8 fois, si je me trompe.
Oui, puis à la fin, c'est 4 essais 1 hein, en plus.
Oui, 4 essais 1. Mais
voilà,
et je me souviens de Charles Olivon au petit bar à Dublin de leur hôtel, où il me disait, il avait la haine, il disait, on va prendre notre revanche. Donc j'attends cette revanche. Vendredi soir.
Ah oui, il voulait l'avoir en finale.
Déjà après le match à Dublin, hein, à Dublin, il avait la haine. Il dit ça se repassera pas comme ça.
On est moins fort qu'eux ?
Non, il disait justement, on a
pris une fessée. Je te pose la question à toi.
Mais il va falloir jouer notre meilleur niveau pour essayer de les battre. Je crois que si tu n'es pas à ton meilleur niveau, puis c'est tellement de précision, ils sont tellement cliniques, comme on disait, c'est que si dans les détails, si tu fais trop de fautes, la discipline notamment et tout ça, t'es puni contre eux. La vérité, c'est que même eux, ils tentent plus les pénalités. Ils vont en touche, ils font des pénales touches, ils savent très bien leur force, où elles se situent. Et puis, t'as pas trop de comment dire.
Pas trop de déchets dans leur
jeu. Déchets, quoi. Et puis, toi, il faut être prêt. Et je dis oui, si on est prêt, on peut gagner.
Oui, ils n'ont pas trop de blessés en plus. Ils ont été à peu près.
Alors, il y en a un et pas des moindres, c'est quand même. Mac Hansen, à l'aile de l'Irlande, qui peut justement faire partie de ces ailiers qui font très mal. C'est une des machines à essayer à marquer de l'Irlande, qui n'est pas là, qui est forfait pour ce tournoi destination. On a évidemment évoqué le buteur hors pair qui était pendant toute sa carrière, Johnny Sexton. On se rappelle quand même du tournoi 2018, hein, ça s'est mal terminé pour les Bleus avec ce drop après le buzzer de Johnny Sexton. Donc il y a quand même des manques. Maintenant, effectivement, on a une troisième ligne de dingo, pour ne citer que lui, Josh Van Der Vliet. Je pense qu'on se rappelle de lui. Hein.
Pas que lui, il y a Doris.
Doris, effectivement. Et pour cela,
O'Mahony capitaine.
Et bon, O'Mahony Peter capitaine. O'Mahony, c'est quand même pas le dernier des joueurs
des
Mohicans, effectivement. Non. Merci, ni des Templiers d'ailleurs. non, Peter O'Mahony pour compléter cette troisième ligne, le capitaine qui a plus de 100 sélections, qui lui aussi est un pilier, pas pour dire le poste, mais un fondement de cette équipe et qui va porter aussi.
Si on réfléchit un peu, c'est vrai qu'on peut se penser que la faille quelque part c'est le 10, mais il y a encore une fois avec un grand point d'interrogation,
ouais.
Parce que moi Bjørn et l'autre,
Bayern, ouais.
Et c'est des bons joueurs.
On a Ciaran Frolé, on a Bayern et on a, je me souviens plus comment il s'appelle le dernier, qui d'ailleurs Jack Crowley, voilà, qui est d'ailleurs peut-être le plus susceptible de jouer directement.
Il y a une chose, c'est avec nos absents. Bon, Meafou n'était jamais là avec les Bleus, mais devait être là et était quand même un apport. Une deuxième ligne flamand, Meafou, c'est la potentielle deuxième ligne titulaire, pas loin du Stade Toulousain. Donc flamand, Meafou, Jelonche, Dupont et Tamac sur le papier. Et on a beaucoup de manques, même si ceux qui vont les remplacer ont le niveau, je pense. Mais peut-être, on va voir s'ils ont le même niveau. Sur le papier, je pense que l'Irlande est au-dessus de nous.
D'accord.
Après un match, on a le Vélodrome, on a domicile et tout. Avec tout ce que tu as dit, Denis, sur l'équipe d'Irlande.
Sur le
papier. Après, le papier, des fois, ça ne veut rien dire.
Après, si on regarde les ailiers, l'arrière, les centres, voilà, il n'y a pas aucune faille. Quoi. C'est très, très fort.
Ah, on a une ligne de trois quarts.
Aki, c'est un monstre au centre.
Ouais.
Bref, voilà, vous avez joué.
Non, mais on est prévenus.
On a peur. Maintenant, j'ai la trouille. Non, mais je tremble. Je vais pas descendre à Marseille.
Mais c'est bien d'avoir la même chose.
Non, mais les joueurs d'équipe de France ont la trouille. C'est normal. Ils ont la trouille de passer à travers. Et je pense que c'est la meilleure des peurs que tu peux avoir.
Alors, justement, cette équipe de France, penchons-nous sur cette équipe de France qu'on avait donc quittée il y a quelques semaines, battue. Et évidemment, le moral au fond des chaussettes. Et est-ce qu'elle a retrouvé de l'allant? Est-ce que les Bleus étaient contents de se retrouver? On va écouter à ce sujet William Servat, qui est l'un des entraîneurs du 15 de France, ravi en tout cas de retrouver tout son petit monde à Marcoussis. C'était il y a quelques jours, on l'écoute.
énormément de fraîcheur et d'envie, énormément de plaisir à se retrouver. On a un groupe qui vivait bien et on a un nouveau groupe qui vit bien, avec de nouveaux joueurs, avec de nouveaux membres du staff, parce que le groupe c'est l'ensemble de toutes ces personnes. Et aujourd'hui il y a une grosse fraîcheur et la nouveauté amenée par ces nouveaux-là, et une grosse expérience de nos joueurs. Certains joueurs qui étaient quasi retraités, mais qui, avec l'état d'esprit qui est le nôtre et la capacité de notre groupe à se régénérer, ont eu envie de continuer cette aventure, parce que les aventures, c'est toujours des aventures sportives, mais c'est toujours des aventures humaines. Et autour de la qualité humaine de ce groupe, je crois que tout le monde avait envie de se retrouver. Les regards, les mots, les conversations qu'il y a pu avoir montrent tout simplement que ce groupe vit de la plus belle des manières qui soit. Et aujourd'hui, tout le monde avait envie de se retrouver pour relever un petit peu la tête après cet échec.
Relever la tête après cet échec, nous dit William Servat. Winnie, Wilfried, vous côtoyez régulièrement les joueurs de l'équipe de France. Est-ce qui vous donne l'impression d'avoir digéré ce quart de finale?
Bah, en tout cas, ils essayent de prendre les choses par le bon bout, hein. C'est ce que nous disait Fabien Galthié déjà à Dublin, enfin pas à Dublin du coup, en visioconférence de Marcoussi pour toutes les journalistes qui étaient à Dublin. Et donc Galthié qui disait, lui, on va pas faire de l'Irlande un sujet tabou. C'est le jour 2 post Coupe du Monde, ce match. De l'Afrique du Sud un sujet tabou. Il va nous permettre de construire notre préparation pour l'Irlande. Donc, à aucun moment, on a décidé de mettre entre parenthèses le quart de finale. C'est le dernier match, il le dit. C'est notre dernier match avec les Bleus. Donc, évidemment, on construit par rapport à celui-là pour l'Irlande. Et donc, on va évidemment le scruter de près, retravailler ce qui n'a pas été. Voilà.
Ouais,
et
mais enfin, ouais. Moi, ça, c'est la courbe.
C'est les têtes après. Hein.
Mais Mathis Lebel l'a dit aussi. Non, ça ne fatigue pas. On a travaillé là-dessus. Ils sont allés revoir des vidéos de l'Afrique du Sud.
Je pense qu'ils travaillaient beaucoup sur l'Irlande, à mon humble avis. C'est que.
Plus que sur l'Afrique du Sud.
Mais oui, évidemment. Mais je crois qu'ils ont tourné la page de l'Afrique du Sud plus qu'on ne croit.
Mais il fallait se laver la tête, Denis. Je pense que tout le monde a mesuré. Ils ont été choqués.
Oui, mais là,
ils se sont retrouvés le lendemain midi de l'élimination. Ils ont presque.
Là, je pense qu'ils ont quand même basculé sur l'Irlande. Sur l'Irlande, il y a d'autres atouts.
Il y a eu des pleurs, hein. C'est Lucu qui disait, il y a eu des pleurs, même le lendemain midi et tout. Ils ont été choqués de cette élimination. Non, mais
un peu comme dans Les Bronzés, on leur a jeté le Scrabble par la fenêtre de l'hôtel.
Non, mais vous avez oublié votre Scrabble. Ah, mince. C'est les Argentins qui étaient arrivés à l'hôtel, qui ont repris l'hôtel. Attention, les Scrabble. Merci.
Ce que je veux dire, c'est que tu joues pas l'Irlande ou l'Afrique du Sud de la même façon. Tu joues pas l'Irlande ou l'Afrique du Sud de la même façon. Tu te prépares pas à jouer ce match. De la même façon, on sait que les arguments des Irlandais ne sont pas du tout les mêmes que ceux des Sud-Africains. Et donc, voilà, c'est pour ça que, évidemment, ils ont dû reparler du match Afrique du Sud, mais ça n'a pas duré très longtemps.
Ah, de ce qu'ils disent, c'est pas, voilà, ils sont passés à autre chose.
Ouais. Allez, on est passé à autre chose. On a changé de staff en plus, avec l'arrivée donc, de trois nouveaux pour combler les départs de Labit, de Geza et de Thibaut Giraud. Tu peux nous dire un mot de ces trois-là, même si, évidemment, le monde du rugby connaît ces garçons-là. Il y a notamment Arletaz, hein, qui est un vieux de la vieille.
Le haut en couleur catalan de 51 ans, Patrick Arletaz, qui donc était le coach jusqu'à la saison passée de Perpignan, de l'USAP, entre 2019 et 2023. Lui, c'est certainement celui qui nous a le plus intéressé parce qu'on connaît le personnage haut en couleur.
Ah
parce
oui,
que il
parce
a pas peur de parler.
On va avoir peut-être un discours plus intéressant au micro. Parce
en
que
tout
lui,
cas, on l'a
vrai,
plus entendu que les autres sur le terrain, sur les entraînements ouverts au public. On l'a bien entendu. Il a même lui, il l'a dit très ouvertement quand il est arrivé sur les premiers rassemblements, avant même que les Bleus soient là. Mais vraiment, quand ils se sont entraînés en novembre et en décembre avec Fabien Galthié, il disait j'ai peur de trop en dire, de trop l'ouvrir quelque part. Il va falloir que je jauge, mais en même temps, il m'a recruté pour qui je suis, donc je ne vais pas non plus changer ma nature. Donc voilà, on a un Patrick Arletaz qui donc reprend le coaching de l'attaque des Bleus. On a Laurent Sempéré qui, lui, va rejoindre William Servat sur la conquête. Lui qui était au Stade français, ils ont fait un poste pour poste, en fait, entre Karim Ghezal et lui, entre les Bleus et donc le Stade français. 38 ans, Laurent Sempéré, assez jeune. Même âge que Ghezal à l'époque quand il a rejoint Fabien Galthié après la Coupe du Monde 2019. Et lui qui a fait, on le sait, du Stade français l'une des équipes les plus organisées en conquête, les plus conquérantes, les plus dominatrices. Et donc, c'est pour ça qu'on allait chercher un tel profil. Et puis, dernière recrue, qui n'est pas vraiment une recrue, puisqu'il était déjà dans le staff, c'est Nicolas Jean-Jean.
Qui est un ancien joueur du 15 de France.
L'ex-arrière et aussi de Toulouse, du stade français, de Brive, qui lui a 42 ans, qui est passé donc, qui était déjà préparateur physique. Il est passé directeur de la performance à la place de Thibaut Giroud, juste après la Coupe du Monde. On l'a eu justement en conférence de presse à Marcoussis la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que, on sent un personnage beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la description pragmatique de ce qu'est son boulot au quotidien avec les joueurs, beaucoup moins politique entre guillemets, et ça c'est même des gens dans le staff qui nous le disent, de Thibaut Giroud, beaucoup moins politique que Thibaut Giroud, c'est-à-dire qu'il va moins être dans la réaction à nos questions, dans la méfiance vis-à-vis de ce qu'on pourrait interpréter de sa préparation,
mais plus dans la transparence. Il a déjà connu ça en tant que joueur, voilà. les interviews, le tournoi Destination.
Bah, voilà. Apparemment que Thibaut Giroud.
Ah non, alors là, vraiment rien à voir, mais en même temps c'est assez agréable parce qu'on sent qu'on va pouvoir avoir des débats posés sur comment il voit, lui, la préparation physique des joueurs. Il nous a parlé de la data, enfin voilà, il est très ouvert.
Denis, tu connais évidemment ces trois-là, ça te semble être un bon choix fait par Fabien Galthié ?
Moi j'aime bien Arletas, j'aime bien son caractère, j'aime bien, d'abord je dis, c'est tout à son honneur, il est arrivé à sauver le Perpignan l'an passé, il connaît forcément le rugby, je pense pas que Fabien l'ait recruté comme ça.
On attend de voir, Denis, l'association Galthié Arletas sur la dépossession face à plus de jeux à Perpignan. On a déjà parlé dans ce podcast.
Si Fabien est allé le chercher, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc la raison, c'est qu'il va amener un peu plus de jeu, il me semble, dans la stratégie.
L'intuition peut-être.
Le côté intuitif. Oui, t'as raison. Mais moi, j'en pense que du bien. Voilà. Et après, il faut voir il faut voir au quotidien comment ils s'entendent bien, il n'y a pas de raison. Après, Sampere, je l'ai bien connu au Stade français, c'est un garçon posé, c'est un garçon travailleur, c'est un super mec, oui. Et puis surtout, il a été très performant au Stade français, donc il va apporter forcément sa base.
Voilà, et puis au niveau des joueurs aussi, il y a la nouveauté. On espérait beaucoup de Meafou qui était attendu un peu comme le Messi. Malheureusement, il s'est blessé, on ne le verra pas en bleu avant au moins 6 semaines, donc fin de tournoi peut-être. Du coup, le staff a voulu voir un autre phénomène en deuxième ligne, on en parlait déjà la semaine dernière, le Perpignanais Possolo Tuilagi, qui en quelques heures à peine, la semaine dernière, à Marcoussi, a réussi à séduire et impressionner Galthié et son staff. Écoutez ce que dit de lui justement Nicolas Jean-Jean, dont on vient de parler, le nouveau directeur de la performance du 15 de France.
C'est vrai que c'est un joueur que l'on voit jouer évidemment sous ses couleurs de club, mais aussi avec le maillot de la sélection des jeunes. On l'a vu très dominant sur l'exposition qu'il a eue de la dernière Coupe du Monde. C'est un joueur qui physiquement est en avance par rapport aux autres. Cette avance physique, elle existe aussi avec les plus grands, donc c'est un joueur qui est intéressant à ce niveau-là, dans sa puissance, dans sa capacité à se déplacer aussi, parce que malgré sa masse, c'est un joueur qui se déplace. C'est un jeune joueur, donc a besoin encore d'initier un peu plus son parcours avec un peu plus d'expérience. C'est un joueur qui, je pense, s'il continue comme ça, peut forcément se positionner sur le niveau international, oui.
Voilà, tu l'as dit, le phénomène.
Il est pas loin, on risque de voir avant la fin du tournoi.
En tout cas, il est revenu en deuxième semaine.
Il est là en joueur supplémentaire. Il a forcément
tapé dans l'œil de Galthié pour être rappelé toute la semaine.
Après, le problème, ce joueur, il ne joue pas la Coupe d'Europe, donc la seule référence, c'est le championnat. Le championnat, il est extrêmement dominant quand il joue. Moi, je le vois jouer, c'est absolument incroyable. Après, il y a la prochaine marche, c'est quand même l'équipe de France. Alors, il a joué l'équipe de France de moins de 20 ans. C'est peut-être pas le même rythme, même intensité qu'un Irlande.
Il faut passer le cut et il faut peut-être pas le passer face à l'Irlande.
Après, c'est vrai qu'il était vraiment au-dessus pendant le dernier championnat du monde de moins de 20 ans cet été. Je me rappelle de ce match face aux Néo-Zélandais, un essai qui va donner à la fin, mais il traverse le terrain, il emmène, il traîne toute l'équipe de Nouvelle-Zélande derrière lui. Parce qu'il faut quand même donner son gabarit. Il n'est pas immense, il fait 1m94, mais il fait quand même 149 kilos.
C'est lourd à déplacer 140 kilos.
Et pourtant, visiblement, ce que nous dit Nicolas Jean-Jean, c'est qu'il s'est déplacé, il s'est bougé sa masse.
Non, mais c'est un joueur qu'il faut protéger. La vérité, c'est que voilà, ils vont pas le griller et qu'ils vont l'amener petit à petit. Je répète, je pense qu'on va le voir, contre l'Italie.
Et vous savez qu'il y avait au bord du terrain quand il s'est entraîné jeudi ?
Ses oncles,
son père, je veux dire. Henri Tuilagi.
Il fait 180 kilos.
En France avec Perpignan en 2009.
Il a fait quelques grillades
internationales Samoan. Ouais, visiblement, il a même préparé le barbecue pour tous les joueurs.
Ah oui.
Et le staff. Et ouais,
on l'a vu avec Antonio.
Parce qu'il est traiteur aussi maintenant, lui, retraité du rugby.
Il a fait des brocolis et
un peu de verre
de dinde.
Et un peu de salade.
Bon, en tout cas, c'était touchant à voir parce que déjà, c'était étonnant. On voyait ces masses avec leur espèce de jupe samoane. Il y avait lui et il y avait des membres de sa famille qui étaient en tribune. Et alors, Henri, on est allé un peu discuter avec lui rapidement. Et puis, il était mais complètement les yeux rivés sur son fils, sur chaque mouvement de son fils. On sentait qu'il était en train de vivre le rêve de son fils à travers cet entraînement. Non, bah, d'ailleurs, famille, hein, on n'a pas envie de l'embêter.
Oui, le bébé, là, avec Méa Fou et lui, là, on a quand même des gros bébés.
Et puis Manu,
qui a été élevé comme une fille, puisque c'est la tradition au Samoa.
Et celui qui est en Angleterre,
on en élève un.
Fait partie de la famille, le trois quarts cent anglais.
Oui, Manu Tulagi, bien sûr, tout à fait.
Exactement.
Ah, grosse famille.
Alors, il sera vraisemblablement pas là pour l'Irlande. Ce sera à Marseille vendredi. Avec toi, Wilfried, on va essayer de voir à quoi pourrait ressembler cette équipe de France, l'équipe qui débutera en tout cas. Les entraînements ont révélé des tendances. Quelles sont ces tendances, justement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
De la continuité, on va dire, avec cette équipe de Fabien Galthié, avec une première ligne Baye, Movaca, Antonio, sans surprise, mais on va y revenir quand je dis continuité, avec Movaca notamment. En deuxième ligne, on attendait quand même Cameron Wauke, ouais, associé avec Paul Willemse. Mais c'est Paul Gabriel qui fait les entraînements à gauche de la deuxième ligne, avec Willemse, plutôt que Taofi Fenua d'ailleurs. Donc Taofi Fenua, et c'est pour ça que William Servat en a parlé la semaine dernière en disant c'est le rôle qu'il amène, c'est très important, mais il préparait le terrain, je pense, parce que Willemse revient et serait titulaire. En troisième ligne, pas de surprise aussi, Cross Aldrit Olivon avec les blessés, avec Gelon absent notamment. La charnière Lucu Jalibert, même si Jalibert était un peu ménagé, il avait une petite coupure, une petite entaille à la main gauche. Au centre, comme souvent, et comme ces derniers temps, Danti Ficou. À l'aile droite, Penaud. À l'arrière, Ramos. Et je vais dans ce sens-là parce que la semaine dernière, on avait Louis Bielbiaré qui jouait à l'aile gauche. Mais sur les derniers entraînements, Winnie vous confirmera, c'était Yoram Moefana. Donc on va se poser la question. Peut-être que les chandelles qui étaient en direction de Bielbiaré de l'Afrique du Sud, pas directement sur Bielbiaré, mais qui le visait, je pense, à mon avis, ça peut vous donner des idées aux Irlandais. Voilà, c'est peut-être le débat de cette aile gauche. Et Moefana qui est très performant avec l'UBB depuis des semaines.
Voilà, et qui, sous les chandelles, est plus à l'aise
Bonne question. C'est à voir.
C'était la bonne question.
Non, mais on n'a pas vraiment la réponse, en fait.
Merci de l'avoir posée.
C'est la vérité, on ne sait pas bien le barrer. Le contexte de l'Afrique du Sud, si c'est une balle haute, tu ne peux pas vraiment le juger. Enfin, je ne sais pas, moi.
C'est pas lui qui était directement
en
dessous.
En plus, c'était même pas lui.
Mais je pense qu'il le visait aussi parce que c'était un jeune joueur, un jeune sélectionné.
Mais t'évoquais Wauke, et je pense et on évoquait aussi ces ballons hauts qui nous ont tant fait mal contre les Sud-Africains. Peut-être que le choix de Paul Gabriel, c'est aussi cette volonté, alors pas dans les airs, mais de travailler mieux à la retombée du ballon.
C'est ce que disait Galthié il y a quelques jours. Il disait c'est pas sur les ballons hauts qu'on a été embêtés.
C'est les phases d'après.
Le ballon a été mis au sol, il s'est fait piquer.
Et c'est peut-être sur ça qu'il va chercher un peu plus de densité en allant prendre un Paul Gabriel, capitaine du Stade français, 5 ans de plus que Cameron Wauke.
Il a cette
expérience. Alors ça fait depuis 2019, il a pas connu en fait le mandat Galthié. Il a arrêté.
Oui, mais c'est aussi la politique de l'homme en forme, parce qu'il est très fort avec le Stade français.
C'est ça.
Paul Gabriel, et donc c'est peut-être là où il risque d'avoir gagné sa place par rapport à Wauke.
Alors que Wauke est quand même sur les derniers matchs de Champions Cup, il est revenu très fort. Il a été notamment félicité par Stuart Lancaster, son coach au Racing 92, qui a dit qu'il a été énorme.
Wauke en touche,
c'était notre meilleur preneur de ballon touche à la dernière Coupe du Monde.
Et Fabien Galthié l'a souligné aussi juste avant le rassemblement.
C'est sûr que Gabriel va jouer titulaire. On est sûr.
Ça se dessine tout du moins. Et on sait que Fabien Galthié, généralement, ne nous fait pas de surprise.
Il ne fait pas de blagues.
Il se cache pas à l'entraînement.
Ce serait une surprise pour moi.
On va très vite le savoir.
Gabriel, sur tous les entraînements.
Mercredi, l'annonce de la compo.
Alors, au poste de talonneur, Movaca semble cette fois avoir pris le meilleur sur Marchand, son coéquipier au Stade toulousain. Comment vivent-ils cette concurrence? On va écouter justement Peato Movaca, que tu as rencontré, Wilfried. Il nous parle justement de cette concurrence avec son équipier de tous les jours.
Ce sera le choix du staff, mais après à Toulouse, ça marche comme ça avec Julien. Soit c'est lui, soit c'est moi qui commence. Donc si on me donne la chance de commencer, je sais que je peux assumer ce rôle. Mais j'ai commencé avec Julien, donc on a toujours marché comme ça à Toulouse. Et pour l'instant, c'est bien passé. On s'entend super bien, comme des frères, quoi, des frères de club. Mais dans le rugby, c'est complètement l'opposé. J'aime bien jouer comme les trois quarts, et lui, c'est le vrai talonneur. On s'entend bien et on se complète bien.
Voilà, des frères de club, c'est une belle expression.
C'est beau, c'est une belle expression.
Très chouette, très chouette. C'est vrai que jusqu'à présent, Movaca était considéré comme un impact player. C'est le mec qui rentrait, qui faisait la différence sur les fins de match. Mais pendant la Coupe du Monde, ça a changé,
Bien sûr, parce que Julien Marchand s'est blessé. Mais il a 29 sélections, Peato Movaca. Il a connu que 8 titularisations. mais il n'a jamais été titulaire quand Julien Marchand était sur la feuille. Il a été 17 fois son remplaçant. Et là, ce serait la première fois qu'il serait titulaire alors que Julien Marchand est là. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Hein. C'était le numéro 1, Julien Marchand, quand même. Donc,
quand là, il était numéro 1. Titulaire, il marquait souvent des essais, même, hein, pour Bovaka, hein, souvenez-vous.
Oui. Mais c'est pas du tout les mêmes, il l'a dit. Mais Bovaka, il est stratosphérique depuis des semaines.
On sait à quel point surtout... Galtier, il tient à ses impact players. Hein. Regarde, Romain Tao Fifenoua, c'est pareil.
Mais Julien Marchand, il peut devenir un impact player.
Mais les qualités de Bovaka, il est incroyable. Alors William Servat lui dit toujours pense au rug, pense à la mêlée, parce que c'est un trois quarts en fait. Julien Marchand, il a marqué. Vous lirez son interview. Bovaka, pardon. Vous lirez son interview. Je vais parler d'une chose. À l'Ulster, il a donné un essai à Antoine Dupont. Il arrive sur le dernier défenseur à 10 mètres de la ligne. Il fait une passe aveugle. Il peut la donner tranquillement, il reste à regarder l'arrière et il donne le ballon à Dupont à droite sans regarder Dupont en fait quoi.
Enfin ceci dit, ça... quand on voit qu'Anthony Jelon avec le Stade Toulousain, il fait des 50-22 à la sortie des rucks, on voit que tout est possible à Toulousain.
Moi j'ai jamais vu un talonneur jouer comme Movaka en fait.
Il a un profil qui est pas du tout celui de le talonneur irlandais. Non.
Ah non, oui.
Il s'appelle qui est très costaud aussi, Sheehan, mais moi je pense qu'en plus je vois pas trop de talonneurs lui ressembler. Il est assez atypique quand même. Donc,
dans un système de jeu. Il y en a beaucoup de talonneurs qui peuvent jouer 8 aussi, puisqu'on l'a vu pendant les matchs de prépa. Hein. Il y avait celui d'Afrique du Sud, il me semble, qui pouvait jouer 8. J'ai un trou.
Le capitaine qui a joué contre le Stade français, là.
Deon Fourie. Il lui pouvait jouer 8. Mais quand même, c'est assez révélateur aussi de cette mobilité qu'a Movaka.
Mais Deon Fourie, il n'a pas les mains de Movaka. Non. Ce qu'il peut faire, Movaka, c'est incroyable.
Un petit mot quand même de Julien Marchand. On sait que sa blessure a été beaucoup plus longue que prévu. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que vous l'avez vu, Wilfried, tu l'as vu jouer toi en club?
Oui, il revient doucement, petit à petit. Il a pris des minutes. Il a été absent extrêmement longtemps.
Il est revenu que fin
octobre,
novembre.
Décembre. Parce qu'il s'est fait nettoyer le genou en fait. Il en a profité. Mais petit à petit, il revient petit à petit. Mais il lui faut des minutes. Et peut-être qu'il n'a pas les 50 minutes pour l'instant du niveau international.
On verra ça. Les blessures à répétition qui minent évidemment le moral des troupes et de leur général en chef, Fabien Galtier, les Bleus qui dans leur grande majorité n'ont pas vraiment pu se reposer et récupérer dans une saison qui s'est jamais vraiment arrêtée. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour essayer de limiter ces blessures, limiter le temps de jeu de tous ces internationaux? Mathis Lebel, l'ailier toulousain qui n'avait pas été retenu pour le mondial, mais qui est de retour en Bleu, a son idée sur le sujet. On l'écoute, c'est une longue interview.
Si on compare par rapport aux autres nations, on se rend compte qu'à la fin de la saison, les joueurs internationaux se retrouvent avec un nombre de matchs largement supérieur à, par exemple, des Irlandais ou des Anglais, Gallois ou autres. Donc forcément, c'est à prendre en compte. Après, je pense que tout le monde essaie de travailler de la meilleure des façons pour avoir le maximum de plages de récupération pour les internationaux français. Après, ça sera, je pense, les avis des staffs médicaux de tous les clubs seront à prendre en compte pour savoir, en tout cas, si au niveau de la santé des joueurs, c'est pas trop dangereux de jouer autant de matchs, qu'on se rend compte qu'on a des joueurs qui sont utilisés ou surutilisés. Mais forcément, on a envie d'avoir une belle équipe de France. Chaque club a envie de gagner des titres ou de postuler pour des titres. Et à un moment, c'est sûr qu'il faut utiliser les joueurs qui te permettent d'atteindre un certain niveau. Donc nous tous les jours on essaie de faire le mieux, c'est de se préparer le mieux possible pendant l'intersaison pour réussir à encaisser la charge, mais c'est sûr que des fois on peut vite se retrouver un peu à court de carburant. Du coup je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place pour bosser le mieux possible entre la Fédé pour que l'équipe de France reste aussi performante que ce qu'elle est et le devenir encore plus, et pas pénaliser les clubs sur les matchs qui peuvent être importants, sachant que le top 14 chaque année le niveau monte de plus en plus. Les matchs où on pouvait se permettre de faire l'impasse et en espérant que ça se passe bien, aujourd'hui c'est plus possible parce qu'il y a la guerre à tous les états. Donc c'est sûr qu'il faudra travailler, je pense, quand même main dans la main entre la Fédé et les clubs pour arriver à ne pas mettre les joueurs en danger.
Voilà, travailler la main dans la main,
dit.
C'est évidemment l'éternel problème du rugby français. Mais que...
Il débite, hein,
hein. Il débite,
Il t'a fatigué,
là.
Écoutez.
Oh.
Non, mais je rigole, je présente.
Non, mais mine de rien, c'est quand même pas anodin. On lui a posé la question à lui, parce que, et ça c'est Wilfried qui l'avait noté, c'est le Toulousain le plus utilisé cette
année. Il a raison, mais c'est un problème qu'on connaît, qui est récurrent chaque année.
Ouais, quand ils en ont marre de péter des mecs.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Avoir des squads plus grands, il y en a beaucoup de monde, mais avoir des...
Ouais, mais ça demande plus d'argent, donc c'est
vrai.
Donc il faut relever le plafond du salarié.
Ouais, bah, enlever des matchs alors.
Il faut...
faut tout changer, quoi.
Non, ou faire,
ouais, ou alors mais faire... organiser différemment, avoir deux poules de top, pas un top 14, mais un top.
L'Angleterre, ils ont un top 10 quoi, maintenant.
Ouais. Un top Anglais, 7, un top Anglais. 10.
Alors, il y a une solution qui a été expérimentée par le Stade Rochelet. Ça, il faut quand même bien reconnaître.
Leur rendre hommage.
Puisque le capitaine de La Rochelle, qui est aussi capitaine de l'équipe de France, Grégory Aldrit, a été autorisé à prendre de longues semaines de vacances à la sortie de la Coupe du Monde. Du coup, c'est un joueur presque neuf qui a fait son retour à Marcoussis. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Jean-Jean. Magnifique initiative du Stade Rochelet. Les autres clubs sont-ils prêts à faire la même chose? Pas gagné. On écoute tout de suite Nicolas Jean-Jean.
Il est vrai que Grégory a une gestion différente des autres joueurs. Je dois dire que c'est presque une première en France. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces habitudes de gérer l'état de forme en mettant un bloc où le joueur respire physiquement mais aussi psychologiquement. Il est hors cadre club, il est une sorte de grande vacances. On l'a beaucoup vu en Nouvelle-Zélande avec des joueurs même qui breakaient pendant un an, qui faisaient carrément autre chose, un autre sport, un peu de cricket. Et c'est vrai que dans des longues carrières comme ça, je pense que Grégory avec son club ont été précurseurs d'une forme de régénération qu'on verra peut-être un petit peu plus à l'avenir. Du moins Grégory en avait besoin. Il a eu 5 semaines de vacances complètes sans aucune obligation. Il a eu 5 semaines de reprise avec un cadre physique sur lequel il avait beaucoup d'autonomie. Et ensuite, en 2 semaines, il jouait. Tout va bien, c'est quelqu'un qui a évacué certaines petites tensions et douleurs. Et je pense qu'il est très frais psychologiquement. Ouais.
Voilà, les messages envoyés par le staff du 15 de France. Regardez comme c'est bien.
C'est ce qu'on lui a dit dans les années à venir, jusqu'à l'Australie. Ouais.
Moi, j'ai discuté un peu avec lui il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, il a été très sérieux quand il a repris l'entraînement personnel. Il m'a dit, moi, il s'est mis à fond tout seul et là, je pense que ça fait 5 semaines. Même il était parti au Costa Rica.
Ça lui donne des responsabilités.
Il faisait ses entraînements là-bas, enfin. Ouais. Donc,
mais c'est cette discipline, ils ont l'habitude maintenant, ça fait 4 ans qu'on décide de leur faire confiance, hors cadre club ou hors cadre FFR, mais que les joueurs ont appris à s'autodiscipliner et
se gérer.
Oui, mais c'est grâce à ça aussi qu'ils ont autant de liberté. Après, oui, ils n'ont pas autant de pause.
Non, mais je pense qu'aussi, tous les clubs n'ont pas la possibilité de reposer des joueurs comme lui.
Enfin, je veux dire, il y a des clubs qui sont plus taffés que La Rochelle, qui auraient pu faire la même chose. La Rochelle se passer de son capitaine, de son leader de jeu, au risque de perdre des matchs, et ils en ont perdu
mais
un paquet.
Oui,
mais au risque de le cramer aussi.
Il y en a d'autres qui peuvent le faire, peut-être, au risque de le cramer
définitivement aussi. Donc ils le protègent aussi par rapport à une fin de saison qui va être hyper chargée. C'est tout leur intérêt aussi, quand même.
C'est un pari qu'a fait La Rochelle. Pour l'instant, c'est un pari gagnant parce qu'il est revenu. Et du coup, depuis qu'il est revenu, le Stade Rochelet
est reparti
samedi dernier.
Oui, mais il n'était pas là.
Oui, voilà. Non, mais c'est une bonne initiative. Et attention, ce que nous a dit Didier Lacroix il y a un mois, là, quand il a fait une conférence de presse de fin d'année, il est possible que Dupont fasse la même chose en septembre-octobre, quand il reviendra des jeux de ses vacances. Il aura une année incroyable. Le 1er juillet 2023 à Monaco, fin juillet, les jeux.
Je crois que j'avais lu une interview de Gaël Ficou qui disait qu'au Racing, il ne pouvait pas le faire.
Mais il disait, ça s'est vu hier soir.
Il disait, moi, j'aurais bien aimé faire 2 mois de break, mais je peux pas par rapport à mon club.
Mais c'était flagrant hier soir. On avait une affiche entre le Racing 92 et le Stade Toulousain, deux des clubs les plus pourvoyeurs d'internationaux. D'un côté, on avait un Racing 92 avec énormément d'associations quasi novices, notamment à la charnière, Clovis Le Bail et Martin Méliande. C'était évidemment plus fragile qu'un Le Garec-Gibert qui sont tous les deux appelés par Fabien Galthié. De l'autre côté, on avait un Stade Toulousain qui avait quand même énormément de pépites sur les terrains. Alors évidemment, Antoine Dupont, il n'est pas encore parti à Sèvres, donc il est là.
Malia, titulaire en puissance en moins quand même au Stade.
Et malgré ça, on avait une équipe hyper compétitive sur le papier.
Mais ils ont toujours su gérer les doublons, ça c'est la.
Et donc c'est pour ça, et Denis a
toujours su jouer sur le synthétique du Racing aussi.
Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça.
Voyez ce qui s'est passé avec l'UBB ce week-end. L'UBB qui a été privé de sa ligne de 3/4, l'UBB a chuté
à domicile pour la première fois.
Ça c'est le problème des doublons.
Ah oui, mais il y en a qui savent les gérer.
Bah, c'est moins problématique du côté de Toulouse, par exemple.
Non, mais il va falloir donner des choses comme ça aux plus gros joueurs. On l'a dit, mais c'est une histoire de sous, peut-être de rétribution à un moment, pour qu'il y ait des recrues en plus. Mais les Néo-Zélandais l'ont fait avec succès. Ils s'arrêtent 6 mois, les mecs. Et nous, autrement, ils pètent. Voilà, il y en a plein comme ça, des joueurs Ntamax à péter.
Encore que pour revenir au match de Bègle au Bordeaux, il se perd le match tout seul, Bègle.
Si t'as les six.
C'est
un raccourci qu'on fait, mais.
Oui, c'est raccourci parce que.
T'as pas tort, Denis, dans ce que tu dis aussi.
Je veux dire, ils gagnent sur une interception en toute fin de rencontre.
Oui, qui gère mal, tu vois. Mais bon, bref.
Oui. Ils perdent le fil du match.
Captain Aldrit qui emmènera donc ses troupes au combat ce vendredi au Vélodrome, l'enceinte marseillaise qui avait déjà accueilli un match du tournoi, c'était en 2018 pour un France-Italie. C'était la première fois que le tournoi se déroulait à Marseille. Le vélodrome qui sera plein, mais qui va quand même faire perdre de l'argent à la Fédération française. 60 000, c'est pas pareil que 80 000. Évidemment.
Hein, paraît-il.
Voilà.
On perd 2 millions d'euros à chaque match.
Ouais, ça fait beaucoup, mais l'ambiance en tout cas sera magnifique dans ce stade qui a vu de grandes heures du 15 de France se dérouler. Les Irlandais ne connaissent pas vraiment le stade. Ah si, Wilfried, si quand même quelques-uns. Bon. C'est du Leinster.
Ah.
Ouais,
qui il s'en
venu.
Souvient, Wilfried.
Ah oui, ah oui, il s'en souvient évidemment.
Ah oui,
évidemment, Roxane, elle s'en souvient.
T'en avais les larmes aux yeux, Wilfried.
Elle a encore les larmes aux yeux quand il y a eu le match. La victoire en Champions Cup, évidemment, de La Rochelle.
Est-ce qu'on a vécu fin de match storyde
jamais.
Messieurs ensemble, je crois pas. Non, mais une finale de Champions Cup, de Coupe d'Europe. Je crois que c'était Coupe d'Europe à l'époque.
C'était encore
une Coupe d'Europe sans
suite. Est-ce que vous avez, à part les Wasps qui battent Toulouse, mais c'est de l'autre côté, avec des Français qui gagnent à la dernière seconde, on n'a jamais vécu ça. Souvenez-vous, ces dernières secondes, c'était fou.
Vous signez pour un même scénario vendredi?
Oui.
Eh ben, écoute, il n'y a plus qu'un. On va espérer, on va croiser les doigts, on va prier, on va surtout pousser derrière cette équipe de France. Match donc entre la France et l'Irlande,
très
ce sera
important.
Vendredi à 21h. Nous serons tous à Marseille pour pousser derrière le 15 de France et on se retrouve lundi pour débriefer ce match. Merci les potos.
Salut tout le monde.
À vendredi, à mercredi. Merci pour à l'annonce de la compo. Hein.
On est présent. Ah mais Wilfried sera là aussi. Hein. Attends,
il y a ton tracteur
pas la seule à bosser.
En bas, là.
Voilà, c'est ça. Je vais aller rejoindre mes agriculteurs.
Allez, bonne semaine. À vendredi pour le match. Ciao.
Salut.